Il est 22h, vous êtes sur Europe 1. Et tout de suite, le journal de la nuit.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Le vaccin anti-Covid, sans doute ouvert à tous les enfants avant la fin de la semaine. Avis favorable de la Haute Autorité de Santé. Pour ou contre le pass sanitaire pour aller travailler, rien n'est acté, assure Elisabeth Borne. Et pour cause, ni les syndicats ni le patronat ne sont emballés. Prise d'otages toujours en cours à Paris, près de la Bastille. La BRI est déployée. L'une des deux otages vient d'être libérée. Nous irons sur place dans quelques instants. Près d'1 million de Français ne peuvent pas toucher leur chèque inflation de 100 euros. L'URSSAF n'a tout simplement pas leurs coordonnées bancaires. La météo, le froid arrive et il est pile à l'heure puisque demain c'est l'hiver. L'invité éco ce soir, Elisabeth Moreno, ministre déléguée en charge de l'égalité hommes-femmes. Enfin, peu avant 22h30, on découvrira ensemble les unes de la presse de demain matin.
Europe 1.
Plus rien donc ne s'oppose à la vaccination de tous les enfants de 5 à 11 ans. Après le comité d'éthique vendredi, la Haute Autorité de Santé a donné à son tour son feu vert ce lundi, Céline Géraud.
Effectivement, c'est oui pour la vaccination, mais non pour l'obligation, pas de passe sanitaire pour cette population. L'instance a analysé les données de pharmacovigilance de 10 millions d'enfants déjà vaccinés dans le monde, avec une priorité, la protection individuelle. Écoutez l'immunologiste Jean-Daniel Lelièvre, membre de cette haute autorité de santé.
On reste vraiment chez l'enfant là sur un bénéfice individuel. Le bénéfice collectif n'apparaît pas évident. L'autre facteur qu'on attendait, c'est de s'assurer de la tolérance de ces vaccinations. Et la tolérance semble très bonne sur les données que l'on a pu recueillir, notamment aux États-Unis.
Les autres recommandations, vacciner en priorité les collégiens de moins de 12 ans et face au très faible niveau d'adhésion des parents, la mise à disposition dès janvier d'outils pédagogiques en collaboration avec l'éducation nationale. L'instance préconise aussi une prise de sang avant l'injection afin de n'administrer qu'une seule dose si l'enfant a déjà contracté le virus sans le savoir, et puis un délai de 21 jours entre les deux doses. Dernière étape, mercredi, le comité d'orientation pour la stratégie vaccinale devrait valider cette campagne qui pourrait démarrer dès jeudi.
Céline Géraud, chef du service Société d'Europe 1. Vous l'avez donc entendu, la campagne de vaccination pourrait commencer dès ce jeudi pour tous les enfants. Mélina Fachin est allée voir comment ils accueillent la nouvelle, ainsi bien sûr que leurs parents. Reportage dans le centre de Strasbourg.
Beaucoup de parents sont hésitants ou contre le vaccin pour leurs enfants, même si eux-mêmes ont reçu leur dose. Ils se posent des questions sur le manque de recul et l'efficacité réelle du vaccin pour les plus petits.
Je vois pas l'utilité.
Pour les enfants, on est très sceptique, vu qu'ils ne développent pas
de forme grave et que ce n'est pas les plus contagieux. Je pense que déjà, il faudrait que tous les adultes soient vaccinés. Ça serait déjà pas mal.
Pour moi, il n'y a peut-être pas eu encore assez de tests cliniques pour être certain que le vaccin est sans risque pour les 5-11 ans.
Mais il n'est pas rare de croiser des parents et des enfants franchement convaincus.
Moi, je suis très favorable et il sera vacciné dès que possible. Bah, c'est pour protéger à la fois lui et les autres.
Donc, comme ça, on sera tranquille pour l'école. On s'arrête chaque fois une semaine. Et l'école à la maison, ce n'est pas une école.
Si c'est pour guérir tout le monde, je vais bien le faire.
Ça dépend, parce que si ça fait mal, je veux pas, mais si ça fait pas mal, je veux bien.
Parce qu'en effet, qu'ils soient pour ou contre, tous les enfants partagent la même angoisse.
Jamais je ferai la piqûre, c'est foutu.
Alors ça, par exemple, c'est un cri du cœur. Mélina Fachin, reportage à Strasbourg pour Europe 1. Encore plus de choix pour se vacciner contre le Covid. Après le feu vert de l'Agence européenne des médicaments, la Commission européenne autorise le vaccin de l'Américain Novavax. C'est donc le 5e vaccin anti-Covid autorisé dans l'Union européenne. Le Novavax ne fonctionne pas avec un ARN messager. Il s'agit d'un vaccin à technologie classique, comme contre la coqueluche, par exemple. Explication de l'épidémiologiste Yves Buisson.
C'est ce qu'on appelle les vaccins recombinants. Bon, tout le monde a à peu près compris ce qu'étaient les vaccins ARN messager. On injecte un petit bout d'information qui s'appelle l'ARN messager pour que nous fabriquions nous-mêmes l'antigène contre lequel on va se défendre. C'est la protéine Spike. Et une autre voie pour obtenir la même chose, c'est qu'on prépare la protéine Spike dans des boîtes de pétri. Et cette protéine Spike, on l'injecte. Et ça fait le vaccin. On maîtrise cette technique qu'on connaît, qui donne entière satisfaction. La mise sur le marché du premier vaccin recombinant, c'est l'hépatite B, c'était au début des années 90. Maintenant, ça fait partie des 11 vaccins obligatoires du nourrisson que En plus, on n'a pas besoin de leur faire de rappel tellement ils répondent bien à ce vaccin. Là, dans le cas du Novavax, les essais publiés par le fabricant faisaient état de plus de 90% d'efficacité clinique. Je crois que la principale question, c'est quelle est l'efficacité de ce vaccin vis-à-vis du variant Omicron. Peut-être qu'il nous donnera une bonne surprise, mais pour l'instant, personne n'en sait rien.
Le professeur Yves Buisson, président de la cellule Covid de l'Académie nationale de médecine avec Caroline Baudry. Dernier chiffre préoccupant de Santé publique France et malheureusement conforme aux projections. Plus de 3000 patients atteints du Covid sont désormais hospitalisés en soins critiques. C'est une première depuis le mois de mai dernier. Devrez-vous bientôt présenter votre passe sanitaire pour vous installer à votre poste de travail ? C'était tout l'objet du rendez-vous aujourd'hui entre Elisabeth Borne, la ministre du Travail, et les partenaires sociaux. À la sortie, eh bien, rien n'est encore décidé, Carole Ferry, car l'idée de devoir montrer son passe pour travailler ne plaît ni aux syndicats ni au patronat.
Ça, je vous le confirme. Pour une fois, syndicats et patronats sont plutôt sur la même longueur d'onde. Tous craignent que la ministre crée une usine à gaz. En fait, pendant cette réunion, il y a surtout eu beaucoup de questions posées. Les chefs d'entreprise veulent notamment savoir qui doit faire les contrôles, comment ça va se passer. Par exemple, pour les commerciaux qui sont rarement à leur bureau et plutôt sur les routes. Et si un salarié n'est pas en règle, est-ce que l'employeur devra suspendre son contrat de travail ? C'est ce qui se fait aujourd'hui dans les entreprises déjà soumises à ce pass sanitaire. Est-ce que ce serait généralisé ? Pour le moment, la ministre ne se prononce pas. Il y a aussi bien sûr la question de la responsabilité. Que craint le chef d'entreprise en cas de faille dans le contrôle ? Même réticence du côté des syndicats. Donc, la CFDT, par exemple, dit comprendre la nécessité de protéger, mais estime que ce n'est pas aux entreprises de porter cette responsabilité. L'organisation préférerait que le gouvernement renforce le télétravail. Et sur cette question, justement, tout le monde s'est mis plus ou moins d'accord pour passer à 3-4 jours par semaine, mais pas à 100% en tout cas. Alors, Elisabeth Borne a écouté, noté, assuré les partenaires sociaux qu'aucune décision n'était prise, en tout cas pour le moment.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1. 2022 doit être l'année où nous mettrons fin à la pandémie. On espère tous, bien sûr, voir exaucer ce souhait du directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour se débarrasser du Covid. Il invite d'abord à la prudence pendant les fêtes. Il plaide ensuite pour une meilleure distribution du vaccin aux pays défavorisés. Une prise d'otage est toujours en cours dans le quartier d'Aligre à Paris. Deux femmes séquestrées depuis le milieu de l'après-midi dans une boutique sous la menace d'une arme blanche. Le preneur d'otage est atteint de troubles psychiatriques. Thibaut Huy, vous êtes sur place pour Europe 1. On vient d'apprendre, Thibaut, qu'une otage a été libérée.
Oui, et cette femme a été libérée indemne. Les négociations de la brigade d'intervention et de recherche semblent progresser et surtout elles se poursuivent pour libérer maintenant la deuxième otage, toujours retenue par le forcené, retranchée dans cette épicerie et armée d'un couteau. Selon nos informations, il s'agirait d'un magistrat tunisien de 56 ans qui aurait des antécédents psychiatriques, connus aussi dans le quartier pour avoir à de nombreuses reprises harcelé son médecin. Alors pendant les échanges, il a notamment demandé à voir Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, qui a fait savoir qu'il se tenait à disposition des négociateurs. Une colonne d'assaut de la BRI se tient toujours prête à intervenir au cas où la situation devait dégénérer. Et puis, depuis quelques minutes, les allers-retours de voitures de police s'intensifient.
Thibaut Huy, dans le quartier de la Bastille à Paris, après la libération donc d'une des deux otages retenues depuis le milieu de cet après-midi par un homme qui les menace d'une arme blanche.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Ça peut paraître fou, mais à l'heure où près de 6 millions de ménages modestes s'apprêtent à toucher le chèque inflation, chèque de 100 euros, eh bien il manque à l'URSSAF les coordonnées bancaires de près d'un million de bénéficiaires. En clair, ça veut dire que près d'un million de Français risquent de ne pas recevoir ce chèque de 100 euros s'ils ne communiquent pas leur relevé d'identité bancaire, Maud Descamps.
En effet, 1 million de personnes ne peuvent pas pour le moment bénéficier de ce coup de pouce de 100 euros puisque l'URSSAF, donc l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, n'a pas leurs coordonnées bancaires. Or, cette aide est distribuée par virement. L'administration est donc en quête de ces bénéficiaires manquants, comme l'explique le directeur général de l'URSSAF, Yann-Gaël Amgar.
Nous avons déjà contacté par courrier les salariés à domicile. Nous allons les relancer en janvier pour ceux qui ne nous ont pas transmis leur coordonnées bancaires. Et à partir de janvier, on va aussi contacter par courrier et courriel les indépendants et auto-entrepreneurs. Aujourd'hui, on est mobilisés d'abord pour verser à celles et ceux pour lesquels on peut le faire tout de suite. Ça a été ça la priorité. et puis pour aller récupérer auprès des autres.
Pour le moment, il n'y a pas de date butoir au-delà de laquelle un bénéficiaire pourrait ne plus toucher cette prime inflation. D'ici Noël, l'URSSAF espère l'avoir distribuée à 1 800 000 indépendants et salariés à domicile, soit les deux tiers des bénéficiaires.
Maud Descamps. Les soldats français de Barkhane fêtent Noël en avance ce soir à Gao, au Mali. En avance, mais sans Emmanuel Macron, qui devait pourtant passer cette soirée à leur côté. Le président a finalement annulé son déplacement au Mali en raison de la situation sanitaire en France. Conséquence de l'enlisement de la force Barkhane au Mali, Emmanuel Macron avait annoncé en juin dernier le repli des soldats français dans cette seule base de Gao, alors qu'ils étaient présents jusqu'alors dans le nord du pays. William Molinier, est-ce qu'il s'agit du dernier Noël de nos troupes au Sahel ?
Alors, sous ce format-là, très certainement, la semaine dernière, les Français ont déjà remis les clés de la ville de Tombouctou aux forces armées maliennes. 2000 soldats sur les 5000 présents au Sahel vont rentrer à Paris. Selon nos informations, Emmanuel Macron ne cache pas en privé son souhait de mettre fin à l'opération Barkhane. Alors, il n'y aura très certainement pas d'annonce politique avant l'été prochain pour éviter d'en faire un sujet de la campagne présidentielle. Et donc, en attendant, la diplomatie française travaille sur deux volets. Renforcer les armées locales et installer la force européenne Takuba. 900 hommes de 10 pays différents. Son commandement va d'ailleurs rejoindre la base de Gao, l'épicentre de la logistique militaire au Sahel. Tout cela avec la présidence française de l'Union européenne doit préfigurer la nouvelle stratégie de la France dans la région.
Alors, puisque vous parlez de stratégie, William, la stratégie russe en Afrique inquiète la France à travers cette société de sécurité privée, Wagner, société soupçonnée d'être liée à Vladimir Poutine. Wagner soupçonné également de vouloir tirer parti de la réduction de voilure de la France au Mali pour se déployer à son tour. Ce qui inquiète la France, en fait, ce sont les agissements présumés de cette société russe Wagner qui est déjà présente en Centrafrique.
Oui, selon des documents que nous nous sommes procurés, les exactions se sont multipliées dans le pays. Le 2 juin, un convoi a ouvert le feu sur un civil arrêté au bord de la route sans aucune raison apparente. Un mois plus tard, selon ces mêmes documents, ce sont 13 personnes à moto qui ont été retrouvées mortes dans un village. 4 Russes seraient à l'origine de ce bain de sang. Le gouvernement centrafricain a pointé la responsabilité vers les rebelles, mais pour les services de renseignement, c'est une preuve de plus que les Russes de Wagner ont pris le contrôle des administrations. Depuis 2018, les personnalités au pouvoir considérées comme francophiles ont été remplacées jusqu'au ministre de la Défense, connu pour être pro-russe. Wagner est désormais entré dans une phase de stabilisation en Centrafrique pour exploiter dans la forêt les mines d'or et de diamants.
William Molinier. Joe Biden veut freiner la consommation de carburant des voitures aux États-Unis. À partir de 2023, les voitures vendues sur le sol américain, SUV et pick-up compris d'ailleurs, devront consommer beaucoup moins d'essence. Et tout cela pour lutter contre le réchauffement climatique. Quelque chose, tiens, qui n'est pas fait pour tout à fait pour nous rajeunir. Le premier SMS au monde a été envoyé le 3 décembre 1992. Et comme on n'arrête pas le progrès, eh bien ce SMS, écoutez bien, va être vendu aux enchères demain à Neuilly-sur-Seine. Vous allez nous expliquer d'abord comment on peut techniquement acheter un SMS, Wilfried de Villers. Il dit quoi d'ailleurs ce texto ?
Il dit « Merry Christmas, joyeux Noël ». Deux petits mots estimés aujourd'hui entre 100 000 et 200 000 euros. Un SMS échangé donc entre deux collaborateurs de Vodafone en 92 et désormais mis en vente aux enchères. Alors comment est-ce possible ? Comment vendre un SMS ? Eh bien, grâce à la technologie NFT, il ne sera évidemment pas possible à l'acheteur de recevoir directement ce SMS. Celui qui remportera la vente demain se verra en fait remettre un certificat d'authenticité de propriété, certificat sous forme de jetons numériques, c'est ce que l'on appelle les NFT. Une première pour Maximilien Agut, c'est le responsable développement de la société en charge de la vente.
Nous organisons également des ventes de bijoux, des ventes de montres, des ventes de voitures. Nos vies sont de plus en plus dans le digital. Et donc, cette technologie d'NFT permet de rendre unique certains éléments. C'est quelque chose de très nouveau. On parle de Web 3.0. Et je crois que le potentiel qu'il réserve ne peut que augmenter.
Et pour matérialiser ce SMS dans le monde réel, son futur propriétaire se verra remettre un cadre numérique, un objet bel et bien réel, palpable, parce qu'en France, eh bien, il n'est pas possible de vendre un bien entièrement immatériel aux enchères.
Oui, la handballeuse française.
Wilfried de Villers, merci Wilfried. Si vous avez, je ne sais pas si vous avez vous 100 000 ou 200 000 euros et que vous ne savez pas quoi en faire,
dans ma poche, moi j'ai clairement pas ça dans ma poche.
En tout cas, voilà, vous pouvez toujours vous porter acquéreur de ce premier SMS du monde en 15 caractères. En 11 lettres, cette fois, tiens, frustration, c'est sans doute le mot qu'avaient en tête les handballeuses françaises dans leur avion de retour après leur finale du mondial perdu contre la Norvège. La frustration d'avoir été battue 29 à 22 alors qu'elles pensaient tenir la victoire en première période. On va saluer quand même le superbe parcours des Bleus, hein, Cyril de la Morinerie. Vous les attendiez à l'aéroport à la mi-journée, un peu de fatigue hein, peut-être.
Oui, les handballeuses françaises avaient les traits tirés et la mine des mauvais jours à leur arrivée à Roissy. Mais globalement, ces mondiaux restent une grande réussite. Relativiser d'emblée l'expérimentée Alison Pinault, médaille d'argent autour du cou.
Les choses vont redescendre et c'est pas si mal que ça, une médaille d'argent sous le sapin.
Dans le sport, il n'y a pas que les succès qui font grandir. C'est le message du sélectionneur Olivier Crumbles qui veut aider les Bleus à rebondir.
On a pris une leçon d'humilité, on va s'en servir, il faudra revenir plus fort physiquement, plus tonique, plus dynamique, avec un jeu d'attaque beaucoup plus fluide. On se sert de tout, des victoires et des défaites.
Tout le monde pense désormais à Paris 2024, mais les handballeuses françaises ont d'autres compétitions avant la Grande Olympiade, l'Euro et de nouveau les championnats du monde, rappelle Alison Pinault.
On parle beaucoup de 2024, mais il va se passer beaucoup de choses parce qu'il y aura deux compètes avant ça et que c'est des compétitions qui sont très importantes pour nous.
Vaste programme pour les handballeuses françaises qui espèrent être fin prêtes en 2024 pour défendre leur titre olympique.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Le temps pour ce mardi, Marlène Duret. Bah tiens, demain on est le 21 décembre, ça veut dire qu'on entre officiellement en hiver.
C'est le solstice d'hiver, oui.
Et la météo va être au diapason, visiblement.
Absolument, hein. Alexandre, au lever du jour, il va faire froid. On attend entre moins 5 et 2 degrés dans la plupart des régions. La maximale, c'est 6 degrés et on l'attend du côté de Nice et du côté de la Corse. Donc les gelées vont se généraliser, mais la nuit la plus froide de cette semaine de Noël sera a priori mercredi, enfin la nuit de mardi à mercredi, au moins sur une large moitié nord, beaucoup de gelées. Et ce froid ne va pas durer, Alexandre, puisqu'il sera suivi d'un redoux jeudi, ce qui veut dire que pour Noël, le temps sera doux et humide. Alors du côté du ciel maintenant, ça vous intéresse ? Ça reste sec demain. Toujours beaucoup de grisailles le matin sous forme de nuages bas ou de brouillard. Entre les côtes de la Manche, le centre Val de Loire, en continuant vers le Val de Saône et le Lyonnais et en faisant un petit détour par la vallée de la Garonne, un grand classique. Des brouillards parfois givrants entre le Bordelais, le Massif central, le centre, la Bourgogne, le Lyonnais, mais aussi dans les Hauts-de-France et en plaine d'Alsace qui sera déjà sous le soleil. Le soleil qui va l'emporter en journée dans la plupart des régions. C'est bien, hein ?
Vous en avez, parfois ?
Oui, mais enfin, les grisailles risquent d'être un petit peu persistantes.
Ah bah voilà, je m'en doutais. Je me disais qu'il y avait un mais.
Pas partout, hein. A priori, des terres normandes à la région centre et entre le Val de Saône et le Lyonnais. En montagne, du soleil du matin au soir. Ça, c'est bien pour les personnes qui sont en vacances, hein, du côté de la montagne. Sur le pourtour du Golfe du Lion jusqu'à la Côte d'Azur et la Corse, un ciel un petit peu plus variable, plus ou moins nuageux, avec quelques ondées. Et puis, le ciel va se voiler le long de l'Atlantique. Et ça, ça nous annonce une perturbation pour jeudi et vendredi. Donc, un peu de pluie. À Noël, quoi, comme c'est prévu.
Ça serait mieux de la neige, merci. Ben
oui, mais les températures, ça ne vous intéresse pas pour l'après-midi ?
Pas pour ça, pardon !
Vite fait. 0 degrés à Dijon, 2 dans la Nièvre et à Lille, 3 à Troyes, la ville, 3 à Grenoble également, 4 à Paris, 7 à Guibron, 10 à Arles, moins froid à Toulouse, 12 degrés, 14 à Menton et jusqu'à 17 à Biarritz.
Merci beaucoup Marlène pour ce point météo très complet. Demain donc, solstice d'hiver, ce sera la journée la plus courte de l'année. On fera un nouveau point avec vous, hein, Marlène.
Absolument.
À minuit. Restez avec nous dans un instant, c'est Top à Wall Street sur Europe 1 avec Didier Hamot. A tout de suite. Avec Didier Hamot sur Europe 1. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
De boursier.com. Top à Wall Street et Wall Street qui commence la semaine en net repli, conséquence du renforcement des restrictions sanitaires.
Ça baisse, le Dow Jones, oui, moins 1,23%, 34 932 points. Le Nasdaq, moins 1,24%, 14 981 points. La nouvelle vague épidémique inquiète les marchés qui craignent un ralentissement économique sur fond de mesures de restrictions sanitaires qui se multiplient un peu partout dans le monde. Les valeurs aériennes baissent assez nettement. Hein. Boeing, moins 2%, 188 dollars. Delta Airlines, moins 0,5. Southwest, moins 0,8. Tesla aussi perd 3,5%, ça retombe à 900 dollars. Puis des valeurs technologiques, de grosses valeurs technologiques en baisse assez nettes. Amazon, moins 1,7%, Intel, moins 2%, 49,60 $. Et puis Oracle perd 5%, 91,64 $. Oracle, le groupe de logiciels, a annoncé le rachat de Cerner, spécialiste des données médicales, pour 28 milliards de dollars. Un secteur évidemment très en vue, le secteur des données médicales, avec pas mal de surenchères à Wall Street de ce côté-là. Sur les autres titres de valeur de technologie, on a Apple qui perd 0,8% à 169,75$ et Microsoft moins 1,2% à 320$. Le pétrole aussi recule du coup d'1,3% et retombe à 72$ le baril. Il y a toujours l'euro qui campe autour des 1,13 face au dollar.
La bourse de Paris aussi a perdu du terrain, Didier, en repli de près de 1%.
Moins 0,82%. Oui, le CAC 40 est retombé à 6870 points. Une séance difficile, marquée par la rechute des valeurs industrielles, en particulier l'automobile. Stellantis, moins 4%. Renault, moins 3%, 28,17€. On a des valeurs aussi comme Seb, qui recule de 5%. D'autres valeurs industrielles comme Mersenne, moins 3%, ou Olot. Et puis Danone, qui repère 2,7%. Une séance très lourde, donc. Air France aussi perd 1%, 3,77€.
Exception du jour, les valeurs Covid qui repartent à la hausse.
Oui, les valeurs pharmaceutiques, évidemment.
Logiquement.
Hein, remontent, oui, c'est assez logique. Avec donc cette vague qui prend de l'ampleur du côté du variant Omicron, eh bien, ça fait remonter Eurofins, ça fait remonter Biomérieux. Tous les laboratoires d'analyse sont en hausse. Eurofins scientifique, plus 2,5% à 109,24€. Biomérieux, plus 0,5%, 122,80€. Derrière, Pharmagest aussi en profite, plus 2%, avec Transgen, plus 0,5%. Les autres places financières sont à la baisse. En Europe, le DAX cède 1,8% à Francfort. Madrid, moins 0,9%. Milan, moins 1,6%. Amsterdam, moins 1,1%. Et le CAC 40 en baisse de 0,82%, 6870 points.
Merci Didier Hamo.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
BNP Paribas, banque référente des entreprises, vous présente l'invité éco.
Et l'invité éco ce soir sur Europe 1, Elisabeth Moreno, la ministre déléguée en charge de l'égalité homme-femme. Elle était l'invitée de La France Bouge. Elle répond à Emmanuel Duteil et Elisabeth Assayag.
Bonjour Elisabeth Moreno.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être dans votre bulle d'optimisme. On en a tellement besoin en ce moment.
Oh, on l'entend dans votre voix, ça nous fait du bien. Vous êtes la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elisabeth Moreno, avant d'être ministre, vous avez eu une longue carrière en entreprise. Vous avez vous-même monté votre propre boîte. Hein. En 1991, vous aviez dirigé 30 salariés et vous avez été notamment vice-présidente de Hewlett-Packard Afrique. Vous connaissez, Elisabeth Moreno, mieux que personne, les difficultés pour les femmes d'arriver aux plus hautes fonctions. Tiens, comment vous vous y êtes parvenue? Ça a été compliqué?
Écoutez, ça a été d'autant plus compliqué que je n'ai pas choisi la facilité. J'ai choisi des secteurs très masculins, des secteurs dits masculins, parce que je ne cesse de répéter à qui a envie de m'entendre que les métiers n'ont pas de genre, les métiers n'ont pas de couleur de peau, les métiers n'ont pas d'origine sociale ou culturelle. Tout le monde peut faire ce qu'il a envie de faire, mais ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, d'être entouré de personnes qui ont autant que vous de réussir et que vous réussissiez. Mais je peux vous dire que le parcours qui est le mien, puisque en vérité, j'ai fait des études de droit parce que je voulais défendre la veuve et l'orphelin. J'ai eu l'occasion de monter une entreprise dans le bâtiment, dans l'isolation thermique.
Faut le faire quand même dans le bâtiment
et
pour
oui,
une femme.
Si jeune, c'était un vrai défi.
C'était osé déjà.
Ah ben, oui, et en même temps, vous savez, quand vous êtes optimiste, quand vous êtes travailleur, quand vous faites les efforts qui vont bien, et encore une fois que vous allez chercher les ressources, les expertises et les compétences là où elles se trouvent, tout est possible. Et c'est ce que j'ai particulièrement aimé dans le monde de l'entreprise, parce que vous l'avez dit, j'ai d'abord créé ma toute petite entreprise, ensuite j'ai évolué dans des grands groupes internationaux. Orange, j'ai commencé ma carrière dans la technologie au sein de France Télécom qui est devenue Orange. Ensuite, j'ai évolué vers un grand groupe américain, grand groupe chinois. Et puis ma dernière fonction, j'étais vice-présidente de Hewlett-Packard pour le continent africain et les territoires ultramarins. Et à chaque fois, ce que j'ai aimé dans l'entrepreneuriat, c'est que vous pouvez créer, inventer, innover et résoudre les problèmes de notre monde. Donc c'est un environnement que j'aime beaucoup.
Quand vous dites tout est possible, quand on en a envie d'une certaine manière, malheureusement,
c'est pas toujours suffisant.
Malheureusement,
l'envie ne suffit pas toujours.
En passer la part des quotas, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons voulu vous inviter, puisque ce qu'on appelle la loi Rixin, du nom de la députée de La République En Marche, qui s'est battue, il faut bien le reconnaître, pour faire passer cette loi, ça y est, il va maintenant falloir pour les entreprises de plus de 1000 salariés, à l'horizon 2030, d'avoir 40% de femmes, au minimum, dans les organes de direction. C'est une victoire d'en arriver là, ou c'est une défaite parce que la société n'évolue pas aussi vite que ce qu'il faudrait.
Eh bien, Emmanuel Dutheil, vous avez raison de dire combien Marie-Pierre Rixain et Christophe Castaner se sont battus aux côtés de la majorité présidentielle pour faire en sorte que cette loi arrive. Parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes ne voulaient pas que cette loi passe parce qu'ils disaient mais, la méritocratie dans tout ça. Eh bien, moi qui ai passé 30 ans de ma vie dans le monde de l'entreprise, des plus petites aux plus grandes, je peux vous dire que la méritocratie, c'est donner la possibilité aux personnes qui ont du talent, qui ont des compétences, qui ont des capacités, qui ont la motivation et l'envie d'accéder au poste à responsabilité, de le faire. Et il n'y a pas de meilleure méritocratie, justement, que de mettre en place ces quotas qui disent que d'ici 5 ans, il faut que nous ayons 30% de femmes dans les postes de direction et dans 8 ans, qu'il y en ait 40%. Pourquoi ? Parce qu'on est en 2021, que les femmes sont aussi diplômées, aussi compétentes que les hommes, mais qu'il n'y a qu'une seule femme qui dirige un grand groupe du CAC 40, alors même qu'il y a des femmes qui dirigent des États, qu'il y a des femmes qui dirigent des organisations internationales.
Mais encore en tout petit nombre, malheureusement.
Et encore en tout petit nombre. Mais c'est justement pour ça qu'il faut... En fait, les quotas sont là pour accélérer ce processus. Moi, si on m'avait dit, il y a 30 ans, quand j'ai démarré ma carrière, qu'en 2021, il n'y aurait toujours qu'une seule femme, en l'occurrence Catherine McGregor chez Engie, oui, qui dirigerait un grand groupe. Alors bien sûr, il y a également Sodexo, Sophie Bellon, etc. Mais
c'est une présidente par intérim et c'est la fille du fondateur.
Exactement.
Ça n'enlève rien à ses grands mérites et à ses grands talents, mais c'est un poil plus simple d'arriver à la direction.
Sophie Bellon est tout à fait capable et compétente, mais l'histoire n'est pas la même, vous avez raison. Et vous savez, il y a moins de 10 femmes qui dirigent les 120 plus grandes entreprises de France. Et pourtant, des femmes capables, compétentes, prêtes, j'en ai rencontré une ribambelle. Donc, cette loi va régler cette question d'injustice sociale et elle va accélérer ce processus. Et j'espère que ce ne sera que temporaire et que bientôt, on n'aura plus besoin des quotas pour pouvoir avancer.
Et franchement, la loi, c'était la seule solution. Nous, on a eu des patronnes ici, à la table de La France Bouge, dans ce studio, notamment la patronne d'Aigle, qui nous disait « c'est une loi aussi révoltante que nécessaire ». Vous êtes d'accord avec ça ?
C'est une loi révoltante parce qu'on ne devrait pas, en 2021 avoir à voter une loi pour que les femmes puissent accéder aux postes auxquels elles aspirent. Maintenant, on part de tellement loin et le mouvement est tellement lent. Il y a des industries où vous avez...
Pour qu'on ait une petite idée, on est aujourd'hui un tout petit peu au-dessus des 20% de femmes dans les instances de direction.
Mais voilà, 20%. Et encore une fois, permettez-moi d'insister, parce que souvent, on fait des procès d'incompétence aux femmes pour expliquer les raisons pour lesquelles elles n'accèdent pas à ces postes. Il y a même des candidats à la présidentielle qui disent que c'est parce que les femmes ont une intelligence inférieure et qu'elles ne sont pas capables de gouverner. J'ai une ribambelle d'exemples de femmes qui ont prouvé qu'elles étaient capables de le faire.
C'est des entreprises de plus de 1000 salariés. C'est un premier pas. Est-ce qu'il va falloir rapidement descendre sous ce seuil ?
Moi, je crois à la vertu de la pédagogie. Vous savez, je connais beaucoup et très bien les chefs d'entreprise. Un chef d'entreprise est là pour que son entreprise performe. Il est là pour que son entreprise se développe.
Et
elle est là pour faire en sorte
que les entreprises à parité, ou en tout cas, il y a le plus de femmes, fonctionnent un peu mieux que les autres.
Il y a effectivement une ribambelle d'études qui ont été faites par des cabinets les plus sérieux les uns que les autres, qui montrent qu'une entreprise mixte, une entreprise diverse, est plus performante et plus durable. Pourquoi ? Parce qu'on innove, parce qu'on crée, parce qu'on invente différemment. Et tout le monde a envie de travailler avec
nous. Parce qu'on représente la société.
Exactement. Et elle représente la société. Donc, moi, je salue le vote de cette loi. Je veux dire aux personnes qui vont avoir ces responsabilités, qu'elles n'ont pas à rougir d'être passées par là. On est toujours recrutées pour ça. Je pense que les femmes feront la différence dans les entreprises, comme elles le font déjà aujourd'hui. Mais le nerf de la guerre, là où se prennent les décisions économiques, c'est dans les COMEX et dans les CODIR. Et il faut que nous ayons des femmes là. Vous avez dit, Emmanuel, qu'il faut que les entreprises ressemblent à leurs clientes et à la société. Il y a 52% de femmes dans la société. Il est temps qu'elles soient partout.
Merci à vous Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. On vous retrouve demain de 13h à 14h pour La France Bouge sur Europe 1. Noël à la fin de la semaine, hein, votre invité sera le patron de Relais et Château.
C'était l'invité éco avec BNP Paribas. Levée de fonds, entrée en bourse et développement international, choisissez la banque référente des entreprises. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.
La plupart de vos quotidiens, demain 21 décembre, demain jour de l'hiver, eh bien font leur une sur la question du pass sanitaire en entreprise. Un véritable casse-tête, titre aujourd'hui en France, car près de 25 millions de salariés seraient concernés par cette mesure controversée. Les syndicats s'y opposent, tandis que les patrons refusent d'entendre parler de nouvelles contraintes. Ce projet de pass sanitaire inquiète les entreprises, confirme Le Figaro. Une généralisation de ce pass à toute la sphère professionnelle est mal acceptée, en particulier le patronat s'inquiète de la complexité de mise en œuvre d'un tel dispositif et des tensions sociales que sa mise en place pourrait engendrer. Les entreprises, de fait, nouveau front de la bataille sanitaire, titre Les Échos, qui choisissent quand même de zoomer sur les quelques expériences positives des secteurs pionniers du pass sanitaire, secteur de l'aérien, de la restauration et de la culture. Enfin, la Croix s'avance déjà vers la fin de la semaine et le réveillon de Noël qui approche, c'est vrai. La présidentielle sera l'invité de Noël, veut croire La Croix. À quelques mois du scrutin présidentiel, les discussions politiques seront au menu des rassemblements familiaux de fin d'année. J'ignore si vous vous sentez concerné par ce titre de La Croix. 22h31 sur Europe 1, bienvenue si vous nous rejoignez. On accueille Sabine Marin. Bonsoir Sabine.
Bonsoir Alexandre.
On va être ensemble pendant toute cette période des fêtes.
Mais quel bonheur. Et déjà, on se retrouve dans une demi-heure pour les prochaines infos.
Avec plaisir.
Le rendez-vous est pris.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.